Le 20 avril 2015, l'Université populaire d'Emoutiers recevait les écrivains Jérôme Leroy et Serge Quadrupani pour une conférence intitulée « Le polar, historique et panorama du genre ». Aujourd'hui, le polar représente un quart de la production de romans en France. Le succès de ce genre est dû entre autres à sa capacité à rendre aussi bien compte des tendances contemporaines que des profondeurs sombres de l'âme humaine.
On va faire cette causerie sur, de la manière suivante. Je vais introduire brièvement le sujet. Jérôme va un peu le développer. Et puis, on essaiera de vous présenter. Jérôme, au cours de son exposé, essaiera de vous présenter quelques auteurs français. Peut-être qu'on y reviendra après. Parce qu'on s'est dit que c'était important quand même de parler des auteurs, de ne pas seulement faire de la théorie, de parler de ce que chaque auteur avait à notre avis apporte comme originalité, comme, que ce soit dans le style ou dans les thématiques. Et dans un deuxième temps, comme il se trouve que je suis aussi directeur de la bibliothèque italienne aux éditions Métellier, c'est-à-dire que je suis directeur de collection. Donc, c'est-à-dire que c'est moi qui choisis les bouquins qui vont être édités dans cette collection. Et j'en traduis une grande partie, mais il n'y a pas que moi qui les traduis, aussi, mais les traductions sont de toute façon sous mon contrôle. Donc c'est un panorama que je connais bien, et que comme la littérature italienne est vraiment... la littérature noire italienne est vraiment intéressante, je vous en dirai deux mots aussi. En ce moment, disons qu'elle est moins à la mode que la suédoise, mais elle est quand même, ou que la nordique, mais elle est quand même très riche. Donc, je pense que là, on va peut-être commencer en essayant d'abord de savoir de quoi on parle. Alors, quand on parle de polar, c'est une manière très générique de désigner un certain nombre de sous-genres. Et pour commencer, ce qui me semble important d'abord, c'est de dire que c'est une littérature de genre. Et qu'est-ce que ça veut dire, une littérature de genre? C'est une littérature qui repose sur un contrat avec le lecteur, c'est-à-dire que quand vous achetez un livre à la gare pour avoir un bouquin à lire dans le train, je sais que maintenant il y a la concurrence des tablettes et beaucoup d'autres choses, mais quand même ça arrive encore. Quand on achète un bouquin, ce qu'on appelle la littérature de gare, justement, on achète volontiers un bouquin dans la littérature de genre, parce que si on achète un bouquin de science-fiction, on sait qu'il va y avoir des aventures intergalactiques. Si on achète un roman historique, on sait qu'il va y avoir des batailles dans le passé. Si on achète un roman érotique, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Ou alors si j'étais doué. Si on achète un polar, on pense qu'au moins il va y avoir un crime et qu'à la fin on saura qui a tué. Voilà. Mais le terme polar aujourd'hui recouvre toute une variété de sous-genres qu'on peut appeler, par exemple, le thriller, le thriller, le roman d'espionnage, on peut en trouver d'autres. Jérôme et moi, la distinction qui nous semble importante de faire, c'est celle entre le roman policier et le roman noir. Donc, très brièvement, le roman policier, c'est quatre dames anglaises qui se prennent le thé autour d'une table, et puis un cadavre qui tombe sur la table. Il faut très vite savoir qui est-ce qui a tué pour qu'on puisse recommencer à prendre le thé. Il faut très vite qu'on remette le coupable à la police et que les vieilles dames anglaises puissent continuer à prendre le thé. C'est une allusion, évidemment... vous avez compris, à Agatha Christie, qui est un auteur de grande qualité. Mais donc, ce serait plutôt le roman du retour à l'ordre, alors que dans le roman noir, c'est le roman où on va se demander plutôt pourquoi il a été tué, comment il a été tué, et peut-être que même à la fin, on ne saura pas vraiment qui a tué, mais que ce ne sera pas ça le plus important. Voilà, j'espère que je ne t'ai pas coupé l'herbe sous les pieds.
Pas trop.
Pas trop. Et je te laisse la parole.
Oui, ben, je pense que Serge a parfaitement posé ce qu'on aimerait faire passer ce soir. On a été présenté de manière charmante, mais on a été présenté, comme souvent, en disant roman policier. Et finalement, c'est bien l'indication, c'est bien le signe qu'il y a un problème dans la désignation. Mais je dis ça même pour vous en tant que lecteur, c'est qu'effectivement, tout est dans le même rayon. Et du coup, finalement, vers quoi on se dirige ? Alors, le rêve serait qu'on puisse avoir des jeux. Mais si vous avez des très bons libraires, ce qui est le cas, ils vous conseilleront. Ils vous diront, voilà, ça, c'est plutôt ça. Mais il y a quand même il faut quand même peut-être préciser quelque chose. Bon, moi, il ne s'agit pas pour moi d'entrer dans une taxinomie comme ça détaillée des genres, des sous-genres, mais il faut savoir qu'il en existe un grand nombre, comme l'a dit Serge. Alors, très souvent, ils doivent quand même beaucoup plus au marketing éditorial qu'à l'appellation universitaire, parce qu'en fait, ce que recherche tout simplement l'édition et aujourd'hui, c'est à rentabiliser un produit qui l'est de moins en moins et qui est le livre. Alors, par exemple, bon, Serge en a cité quelques-uns, mais on peut dire qu'il y a le Woodunit, par exemple. Le Woodunit, c'est effectivement qui a tué, c'est Agatha Christie, c'est les grandes dames du crime anglais. Il y a le techno-thriller, vous savez, c'est plutôt Tom Clancy, des choses qui font intervenir la technologie beaucoup et dans des récits d'action très violents ou très, très, très prenants. Le roman d'espionnage, bon, qui a été incarné par des très grands noms, comme John le Carré, par exemple, mais par des noms plus rigolos, comme Ian Fleming avec James Bond, et qui continue à exister aujourd'hui, même si la chute du mur de Berlin a mis beaucoup d'espions à la retraite, forcément, par la force des choses. Mais bon, il a continué à avoir toute une série de problèmes. Il y a aussi ce qui a marché très fort ces dernières années, c'est le thriller ésotérique, vous savez, c'est le Da Vinci Code, c'est-à-dire le fait qu'effectivement, en plus, on parce que c'est une des capacités, une des grandes forces de la littérature populaire, si elle existe encore, ça on va y venir, c'est sa capacité d'hybridation, c'est-à-dire que très souvent, les genres peuvent se mélanger. Par exemple, le thriller ésotérique, qui marche très fort en ce moment, on en trouve beaucoup chez Albin, etc., chez Albin Michel, par exemple, c'est le fait qu'effectivement, une bonne part de fantastique vient se mêler à une intrigue au départ plutôt policière ou plutôt noire. Alors, un petit rappel tout de même, peut-être pour voir les enjeux, c'est qu'il faut savoir maintenant que les enquêtes chaque année se répètent. Il faut savoir maintenant que c'est à peu près un livre sur 4 ou 5 qui est vendu sous l'étiquette polar. C'est pas rien, un sur 4 ou 5. Et sachant que ces livres, tout confondus, j'ai pas dit roman, c'est-à-dire que ça peut être aussi bien dans les 4 qui restent, il y a aussi bien une autobiographie de chanteur, un manuel de jardinage, un guide touristique. Enfin voilà, c'est pas seulement le roman. Et vous comprenez pourquoi aussi parfois le lecteur est un peu égaré dans les librairies entre un nombre de collections absolument incroyable. Parce qu'effectivement, les éditeurs ont flairé la bonne affaire et pratiquement il est rare maintenant, il faudrait plutôt chercher les éditeurs qui n'ont pas de collection de romans noirs ou de polars par rapport à ceux qui en ont et qui en créent. Parce qu'en gros, il y a une vingtaine d'années à peine, pour aller vite, il existait quatre maisons d'édition à peine qui faisaient du polar. Il y avait la série noire chez Gallimard, il y avait le masque. Alors, série noire, c'était des couvertures noires, etc. Alors, on disait plutôt que c'était... je voudrais pas... jouer avec la théorie du genre, mais enfin la série noire était traditionnellement un lectorat plutôt, c'était plutôt les papas qui lisaient la série noire et les mamans qui lisaient le masque, donc deuxième collection qui était les couvertures jaunes, plutôt qui était l'éditeur d'Agatha Christie, et d'autres comme ça qui étaient plutôt plus plus dans le goût du nid, plus dans la recherche du crime. Voilà, oui, mais ça, c'est venu après, c'est venu bien après, parce que maintenant, tout ça n'existe plus, tout ça s'est mélangé. Mais il y a une vingtaine d'années, ça, il y avait le fleuve noir, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça a pratiquement disparu. Maintenant, c'est plus en grand format, mais le fleuve noir, c'était incroyable. Il sortait, il y avait les livres de. Il y avait la collection Anticipation, il y avait la collection Spécial Police, il y avait la collection Espionnage, puis quelques autres comme ça. Et il en sortait, on pouvait en acheter une dizaine de titres par mois si on voulait. Que ça ait disparu aussi, c'est intéressant. Puis une série qui commençait déjà à être très élitiste, qui est née il y a une vingtaine d'années aussi, qui est Rivage, qui sont les éditions Rivage, qui maintenant sont une des très grandes maisons du polar. Alors voilà, on a là un premier paradoxe, c'est que le polar a multiplié les collections, il est très à la mode. Les meilleures ventes des listes hebdomadaires, si vous regardez, si vous lisez des news, l'Express, le Nouvel Obs, etc., il y a toujours une liste des meilleures ventes à un moment ou à un autre, et vous vous apercevez que dans les titres qui se vendent le plus, c'est souvent ce qu'on pourra appeler, donc, de manière très générale, les polars. Bon, je prends par exemple le succès de Fred Vargas, là qui est en tête des ventes. Mais bon, vous pensez le succès phénoménal de Millennium de Stieg Larsson, donc qui était sur plusieurs volumes, donc qui était là aussi au sens large un polar. Et le premier paradoxe, c'est que cette collection se multiplie, c'est les meilleures ventes, et que je ne suis plus sûr. Mais là, ça pourra peut-être faire l'objet d'une discussion. Je suis plus sûr que ce soit une littérature populaire, au premier sens du terme. J'en suis plus du tout sûr. C'est-à-dire que je ne crois plus qu'elle touche les classes. Enfin, je ne crois plus. Moi, dans mon expérience de rencontres, mais aussi de militants associatifs qui interviennent dans des ateliers d'écriture auprès de publics un peu éloignés de la lecture, comme ça, je vois bien, si vous voulez, que les classes populaires, c'est tout le problème, se sont un peu auto-exclues de la lecture, comme elles se sont auto-exclues du vote. Et le dernier exemple, c'est assez triste quand on y pense, parce que les deux derniers exemples, il y en avait un qui était bien sympathique, c'était San Antonio, qui continuait à être vendu dans les gares à petit format, hein, au sens littérature de gare, San Antonio, et un autre beaucoup moins sympa, beaucoup moins sympathique, c'était SAS. SAS qui est mort, enfin Gérard de Villiers, son créateur, qui est mort il y a même pas deux ans, il a quand même donné l'équivalent de 300 SAS sur 30 ans. Bon, c'est les derniers qui se vendaient, vous savez, même au bureau de tabac, il y avait les deux ou trois exemplaires du dernier. Bon, c'était un petit peu pénible à vivre quand on sait que c'était les derniers qui se vendaient comme ça et que, bon. Pour aller vite, SAS, c'est légèrement à droite d'Attila, quoi. C'est-à-dire que c'est plus réac, plus machiste, plus atlantiste. C'est difficile. Voilà. Donc voilà. Alors si je suis ce paradoxe, c'est parce que je veux préciser que le polar s'adresse désormais, bah, je crois, hélas, tant mieux, on peut en discuter, majoritairement à ces fameuses classes moyennes et aux professions intellectuelles. C'est-à-dire qu'avant, il ne faut pas oublier quand même que c'était un mauvais genre. Maintenant, c'est un genre qui est devenu, qui a l'aura à Télérama, à sa page dans Le Monde, qui est pris très au sérieux dans des salons, etc. Donc, c'est plus tout à fait un mauvais genre. Alors, est-ce qu'il a perdu quelque chose ou...
Enfin, juste dire... Oui. Pour développer par rapport à ça, je crois que je pense que de l'aspect littérature populaire, le polar a conservé le fait que c'est une littérature de genre. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, que j'ai pas fini de dire. En fait, parce que en fait, dans la littérature de genre, il y a un contrat entre le lecteur et l'auteur, et en fait, l'auteur a moins d'importance. C'est-à-dire que quand on achète un polar, on achète un polar parce que c'est un polar, souvent. Simplement, on a envie d'un polar, on a envie d'un roman. Le filtre de la critique ou de la publicité ou des articles de journaux joue moins. Et c'est en ça qu'il garde quelque chose de ça. En tout cas, par exemple, il y a des collections qu'on achète. Je sais que moi, par exemple, j'aurais tendance volontiers à acheter des Rivages parce qu'il y a un certain type de littérature là-dedans que j'ai envie de polar, que j'ai envie de lire. Ouais. Les masques, ceux à couverture jaune avec le petit, c'est aussi quelque chose. Un type, et si je ne connais pas bien le nom de l'auteur, si je ne connais pas le nom de l'auteur, ça a moins d'importance. L'ego de l'auteur est moins envahissant, disons. Voilà. Et c'est ce que ça, peut-être que ça garde, c'est ce que ça garde de son origine populaire. Sinon, il y avait une collection à laquelle j'ai participé, à sa création, qui s'appelait Le Poulpe, puisque j'ai écrit le numéro 2. Et toi aussi, tu as écrit dedans. C'est une collection qui jouait avec le fantasme de la littérature populaire,
voilà, justement. Oui.
Mais c'était pas... voilà.
Voilà, donc c'est l'exemple de ce que donne Serge, effectivement, d'une littérature populaire. Quand il y a eu une espèce de contre-attaque contre SAS, dont je viens de vous parler, c'était à travers Le Poulpe. Sauf que Le Poulpe n'a jamais atteint le dixième du public que pouvait atteindre SAS. Et s'est révélé, de ce côté-là, en tout cas... Un échec. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Serge, mais il faut bien qu'il y ait quelques points de désaccord. Je pense que depuis, justement, qu'il y a aujourd'hui de moins en moins d'effets collection et de plus en plus d'effets auteurs, malgré tout, c'est-à-dire que c'est des noms qui émergent. Par exemple, j'ai vu deux ou trois haussements de sourcils enchantés à l'évocation, et c'était tout à fait justifié, l'évocation de Caryl Ferret, qui est bon, bah, Caryl Ferret, qu'il soit à la série noire ou ailleurs, on veut lire Caryl Ferret plus qu'une série noire. Et ça, je pense que c'est apparu assez tôt, mais j'y reviendrai, c'est peut-être apparu déjà des manchettes et des néopolars. Alors, je vais parler d'un premier paradoxe, justement, qui faisait que cette littérature aux racines populaires, finalement, ne s'adresse plus tout à fait aux classes populaires et est devenue plutôt une littérature qui s'adresse à des classes moyennes cultivées, pour aller vite, alors que c'était presque des... Même si la série noire, par exemple, après-guerre, a toujours bénéficié d'une cote auprès des intellectuels, ça restait marginal. Bon, Sartre disait qu'il préférait lire une série noire qu'un traité de Wittgenstein. Giono était un grand amateur de séries noires aussi, etc. Mais ça restait malgré tout marginal, et ça restait une lecture de pur divertissement, enfin, qu'on ne prenait pas vraiment au sérieux. Le second paradoxe autour du phénomène du polar, c'est qu'un certain nombre d'auteurs, et là je rejoins ce que tu disais sur Le Poulpe, notamment dans le polar dit engagé, parce qu'il faut se méfier de l'expression, ont fait comme si, ou se sont convaincus, auto-intoxiqués un petit peu, que finalement ils s'adressaient toujours au plus grand nombre, voire à ce qu'on appelait avant les masses. Bon, c'est évidemment totalement faux, et cela donne une production, et moi je ne donnerai pas de nom d'auteur parce que je suis bon camarade, mais quelque chose qui est en complet décalage, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a toujours ce côté la liberté guidant le peuple, en fait, avec, et notamment certains auteurs du Poulpe étaient comme ça, et beaucoup de Poulpes ont été comme ça, du genre on est les bons, on est chez les bons, et donc ça a parfois été ça donne des choses assez ridicules et qui vieillissent mal. Effectivement, donc là on en a parlé, je pense qu'il faut arriver dans le vif du sujet. L'opposition la plus pertinente, en fait, au-delà de tous ces genres, etc., c'est quand même l'opposition qui est celle, Serge a commencé à l'évoquer, qui est celle du roman noir par rapport au roman policier. Alors le roman policier, il a été très bien défini dans les années 20 par un philosophe qui s'appelle Siegfried Krakauer, qui appartenait avec Théodore Adorno à ce qu'on appelait l'école de Francfort. Alors c'est intéressant à savoir, parce qu'à l'époque, dans les années 20, ce qu'il avait lu, ce qu'il lisait de romans policiers, c'était des choses qu'on a tous lues, nous aussi d'ailleurs, enfant, Conan Doyle, avec Sherlock Holmes, il avait lu Maurice Leblanc, avec Arsène Lupin, il avait lu Gaston Leroux, vous savez, Rouletabille, et en même temps, c'est intéressant, parce que bon, ça, je fais une petite parenthèse avant de revenir à ce que disait Krakauer, mais Arsène Lupin, ce qui est intéressant, c'est déjà presque pour moi un personnage de roman noir, parce que c'est un voleur qui se charge de régler les injustices. Donc déjà, c'est pas clair. Les Anglais, ils sont beaucoup plus clean. C'était un détective. Voilà, c'est clair. Hein. Donc là, chez Arsène Lupin, justement, il y a déjà une dimension qui est... Oui, mais enfin, malgré tout, c'est un cambrioleur. Voilà, donc c'est quand même quelqu'un qui vole. Krakauer disait que, en fait, le roman policier était un genre très fortement codé, il avait raison, dont les figures correspondaient aux formes même de la religion. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que le détective est souvent voué au célibat, comme le prêtre, qu'il élucide un mystère, comme il y a lors d'une cérémonie religieuse, notamment catholique, même protestante, et qu'à la fin, il célèbre le triomphe de, pas de Dieu, lui, mais de la raison, qui finalement permet de tout éclairer. Et il disait, voilà, le roman policier, je cite Krakauer, « Le roman policier présente à la société déréalisée sa propre face sous une forme plus pure qu'elle ne pourrait l'avoir autrement. » C'est-à-dire qu'alors là, on arrive justement, si je reformule les choses d'une autre manière, on pourrait dire que le roman policier part du principe que la société est bonne, fonctionne relativement bien et représente un ordre acceptable. Qu'il arrive alors une perturbation qui trouble cet ordre, un travail du négatif qui met en danger tout le système. Bon, en général, c'est le meurtre, tout simplement. Et le roman policier fait alors intervenir un défenseur de l'ordre, ça peut être un détective, amateur ou pas, un flic plus ou moins officiel. Il résout le crime, et avec plus ou moins de difficultés, et tout rentre dans l'ordre à la fin. Donc, bah, comme l'a dit Serge aussi, quand je dis tout rentre dans l'ordre à la fin, c'est qu'il ne s'agit pas d'un syntagme figé, c'est que vraiment, c'est une idéologie qui est à l'œuvre, puisque le roman policier est une littérature du retour à l'ordre. Et comme l'a signalé Serge, ça a souvent tendance à se passer dans les classes dominantes. C'est-à-dire que vous n'avez pas les dangereux, les marginaux, les classes dangereuses dans le roman policier. Elles n'apparaissent pas ou de manière très caricaturale ou à la périphérie. C'est l'archétype du roman policier, évidemment, c'est Louis Dunitz, qui a tué qui, dont le grand Agatha Christie, on en a parlé, Miss Marple ou Hercule Poirot, ces détectives, toutes les enquêtes se déroulent quasiment dans l'aristocratie ou la bourgeoisie, toutes. Le mobile, comme l'a dit Serge aussi, n'est pas très important, c'est la méthode qui va permettre de découvrir le coupable et de recréer un ordre qui n'aurait pas dû être troublé, en fait. Et donc le schéma est tellement évident qu'on le retrouve transposé dans un jeu que la plupart d'entre vous ont sûrement joué, c'est le Cluedo. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça se résume à un Cluedo, c'est le colonel Moutarde qui a tué Madame Olive avec le chandelier dans la bibliothèque. Bon, j'anticipe, mais le roman noir, on s'apercevra que le colonel Moutarde était un ancien collabo, que Madame Olive était lesbienne, et que le chandelier était un faux, et que la bibliothèque était sur le point d'être vendue. Donc voilà, ça va être là, si vous voulez, que la différence va se faire. Et en plus, je voudrais pas qu'on se méprenne, je ne fais pas une hiérarchie en disant le roman noir, c'est mieux que. Je ne sais pas ce que je suis du tout en train de dire. C'est que ce soit Serge ou moi, on n'œuvre pas dans ce genre qui continue à avoir énormément de succès. Vous avez des textes qui sont très, très intéressants, enfin, ce qu'on appelle les grandes dames du crime, qui sont en général anglo-saxonnes d'ailleurs, mais comme Martha Grimes ou Elizabeth George, par exemple, qui sont des voilà, que ça continue à attirer une fraction importante d'un lectorat et qui lit le roman policier comme un vrai plaisir, d'un vrai divertissement où il y a de la combinatoire, des jeux de l'esprit, enfin voilà, c'est
pas mais, des mots croisés
et des mots voilà ou sudoku même, enfin voilà, c'était il y a un côté comme ça et donc en fait on en arrive presque à une distinction qu'on pourrait faire presque pharmaceutique, c'est que le roman policier est un anxiolytique, en fait, si vous voulez. À la fin, ça va bien, vous allez mieux, vous êtes tranquillisé. D'ailleurs, c'était même Fred Vargas, elle qui se revendique plutôt comme un auteur de roman policier, a elle-même dit qu'elle écrit, dans plusieurs débats et interviews, dit qu'elle écrit une littérature calmante. Voilà. Donc, ça peut se justifier tout à fait. Alors, c'est par cette analogie, pharmaceutique, si je puis dire, que j'aimerais bien montrer que la différence avec le roman noir, avec ce que, par exemple, Serge ou moi ou d'autres essayons de faire, c'est au contraire, c'est pas anxiolytique, c'est anxiogène. C'est-à-dire que, en fait, vous devez vous sentir pas mieux, pas très bien à la fin, ou en tout cas pas aussi. Enfin, vous devez être heureux de la lecture, du plaisir que vous avez pris à voir une histoire, mais au fond, vous vous dites zut alors. Enfin, voilà, il y a une vraie noirceur. Donc, c'est quelque chose qui est un peu plus anxiogène. Je suis pas un historien du genre, je pourrais être contredit par des spécialistes, mais malgré tout, on peut estimer que le premier roman noir au sens moderne du terme naît aux USA et que son fondateur presque involontaire, c'est Dashiell Hammett. Dashiell Hammett, qui est un très grand écrivain, qui est enfin parfaitement maintenant traduit en français. Et le premier roman qu'il publie s'appelle Moisson Rouge, ou La Moisson Rouge, et il n'y a pas de hasard. la providence des imbéciles, le hasard, mais ça paraît quelques mois avant la grande crise de 1929, en fait. C'est un roman qui part en 1929 aux États-Unis. Alors, c'est assez intéressant parce que pour résumer, je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous l'ont lu, mais Moisson Rouge, ça raconte un carnage, en fait. C'est tout simple. C'est le patron d'une petite ville minière du Montana qui a utilisé d'une petite ville minière du Montana qui a utilisé les services de truands pour réprimer les grèves. Et puis après, c'est un peu comme l'histoire de Salambo, c'est que les truands, une fois qu'ils sont dans la ville, ils ne veulent plus la rendre. Et donc, ils ne veulent plus lâcher leur part du gâteau. Et quelqu'un a engagé un privé qui va être le narrateur et qui va jouer en fait, la division entre les truands, la police, jusqu'à ce que tout le monde se massacre joyeusement. Et que, voilà, mais l'ordre ne revient même pas à la fin, comme je vous le disais. Alors l'intérêt du roman de Moisson Rouge, bien entendu, il est à la fois dans l'intrigue, mais aussi dans le traitement de l'intrigue. C'est que, par exemple, le roman policier fuit la politique comme le diable, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas en parler, on est dans un monde, je vous le dis, je répète, qui est en ordre. Alors que le roman noir est en général éminemment politique, et que par exemple l'intrigue de Moisson Rouge, elle est éminemment politique, elle illustre quoi ? Elle illustre la lutte des classes, la corruption, les contradictions du capitalisme, le recours à des méthodes qui sont quasiment pré-fascistes, le fait de casser les grèves, etc. Et elle fait aussi, là c'est important, aussi entrer des personnages qu'on trouve pas ou sous des formes aseptiques dans le roman policier, notamment, je vous le disais, le peuple, et sous la forme du monde du travail et du syndicalisme, par exemple. Alors, mais dans Moisson Rouge, l'intérêt, il est aussi, et là, c'est peut-être on va venir à ce qu'à mon avis, le roman noir a une exigence littéraire, et ça apparaît dès Dashiell Hammett, c'est que l'intrigue, elle est traitée avec une forme d'écriture totalement inédite. C'est-à-dire que Dashiell Hammett parle de quelque chose de nouveau et en même temps, c'est peut-être le signe des grands écrivains, invente la langue qui va avec, le style pour en parler. Les motifs, alors c'est ce qu'on appelle d'un mot un peu compliqué le behaviorisme ou le comportementalisme, c'est-à-dire que c'est emprunté à la psychologie, au vocabulaire de la psychologie, c'est-à-dire que les motivations et les sentiments des personnages ne sont jamais exprimés ou explicités. On ne sait jamais, vous n'êtes jamais dans la tête des personnages, de fait que de les voir agir d'un point de vue purement externe. Et par exemple, un grand lecteur, mais je vais revenir sur son nom, de Jean-Patrick Manchette, qui va importer ce style-là en France pour ses propres romans, montre que dans Moisson Rouge, il ne sera jamais dit que Personneville, Poisonville sur la traduction, est une ville où règne la corruption et le désordre. Pourtant, on le déduit très vite quand le privé arrive et décrit simplement la police de l'endroit. J'ai pris le passage où il décrit la police de l'endroit. Donc, il n'a rien dit d'autre. Hein. Il arrive en ville et voilà ce qu'il voit. Le premier policier que je vis avait une barbe de 3 jours. Le deuxième portait un uniforme défraîchi auquel manquaient 2 boutons. Le troisième, planté au milieu du carrefour principal à l'intersection de Broadway et de Union Street, réglait la circulation cigare au bec. Donc en fait, simplement avec la description de la police, vous comprenez bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas tout à fait normalement dans la ville. Et ça va être toujours comme ça. Alors l'œuvre d'Hammett, elle se...
Je suis obligé d'intervenir, puisque c'était une discussion avec Manchette, entre Manchette et moi là-dessus, à propos du comportementalisme, parce que c'est une écriture... c'est un style d'écriture qui effectivement apporte beaucoup, mais en même temps, comme je le disais, il y a des passages dans Moisson Rouge où Dashiell Hammett veut dire que quelqu'un est en colère. Au lieu de dire qu'il est en colère, il dit il retrousse la lèvre, on voit les dents, son sourcil se fronce, etc. Et moi, j'ai plutôt l'impression qu'il va avoir une crise d'épilepsie. Donc, et en fait, c'est une. Comme toutes les doctrines, quand on la pousse trop, qu'on la respecte trop, ça peut donner des choses, une forme de maniérisme de plus. Ouais. Et Manchette lui-même, dans son écriture, ne se refusait pas du tout des moments de lyrisme aussi, toi non plus, t'en refuses pas ma connaissance. Ce qui est intéressant dans le comportementalisme, c'est le refus du psychologisme. Le refus de prendre que l'auteur vous prenne par la main pour vous expliquer, vous comprenez, si le personnage fait ci et s'il fait ça, c'est parce que au fond il est malheureux et il est en train de ressentir vraiment que ce matin il a pensé à sa femme. Enfin bon, au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'on prétend vous faire entrer dans l'intériorité du des des personnages, et en fait, on enfile des perles de banalité, quoi. Et c'est parce que ce qui est le propre de l'écriture et de l'écriture qui nous intéresse, je pense, c'est quand même la description. C'est de décrire les choses et de décrire. C'est une forme. Enfin, le roman noir est une forme de réalisme. Donc.
Oui, non, mais bien sûr, effectivement, c'est, je présente les formes, j'allais dire, canoniques de la chose pour, effectivement, l'écrivain, après, continue même à parfois jouer à lui-même avec les propres règles qu'il a édictées. Bon, il n'empêche que l'œuvre de Hamet me semble quand même fondamentale pour, oui, pour comprendre ce qu'est le roman noir. Il y a un autre aspect qui est intéressant chez Hamet aussi, qui est la biographique, et qui est quelque chose que partagent beaucoup d'auteurs de romans noirs entre eux, c'est que c'est quelqu'un qui est très vite au contact de la violence sociale par sa profession. Parce que d'abord, Hamet est fils de parents plus ou moins ruinés, le premier boulot sérieux qu'il trouve en 1915, c'est de devenir, il est embauché, il a à peine 20 ans, il devient agent de la Pinkerton. Alors Pinkerton, les lecteurs de Lucky Luke, peut-être c'est des petits types qui sont en chapeau noir avec des étoiles et un costume qui ressemble à des shérifs, etc., mais qui sont déjà c'était la plus grande police privée des États-Unis à l'époque où n'existait pas encore le FBI, et ils avaient comme ça une espèce de délégation fédérale. Alors Hamet, ça lui a permis d'apprendre plein de techniques, de voir plein de milieux, parce qu'il était enquêteur chez la Pinkerton, mais il s'est aperçu très vite que il s'agissait en fait d'une milice patronale, la Pinkerton, ni plus ni moins, une force de choc du patronat pour casser les grèves. Le principal de leur activité, c'était ça. Alors c'est vrai que des fois, c'était les seuls à avoir la compétence de retrouver un mari assassin à l'autre bout, en Californie, si le meurtre avait eu lieu à New York. Mais trois quarts du temps, c'était les types qui étaient là pour protéger la propriété privée qui risquait d'être mise à mal par des grévistes. Et donc, par exemple, Hamet... une fois qu'il quitte la Pinkerton, va quand même garder de cette époque une vision très claire de ce qu'était la violence sociale. Et les auteurs de romans noirs, encore aujourd'hui, sont des gens qui très souvent savent de quoi ils parlent. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas, ils n'ont pas vécu évidemment ce qu'ils vous racontent, mais ils ont été au contact de ces formes de violence sociale, politique. Je peux citer un auteur contemporain, par exemple, Marin Le Dain, qui a fait un livre qui s'appelle Les visages écrasés, qui parle des suicides à France Télécom et qui avait une formation de sociologue. Moi, avant que d'écrire des romans noirs, j'étais 20 ans prof en ZEP à Roubaix, donc j'ai pu aussi me rendre compte de certains, pour être poli, dysfonctionnements dans la façon dont les choses se passent. D'autres ont été éduques, d'autres ont été d'extolars, d'autres ont été d'anciens flics. Bon, même s'il n'y en a pas beaucoup qui sont bons, il y avait quand même, on peut citer Hugues Pagan, par exemple. Donc, ça donne pas un plus, mais il faut le savoir, simplement. C'est assez intéressant de s'en rendre compte. Et le roman noir, donc on l'a compris, je vais avancer, est une littérature de la critique sociale, une littérature qui rencontre du désordre, mais surtout qui ne juge pas ce désordre, ou qui ne le juge pas explicitement. C'est une littérature qui se contente d'exposer sans avoir de posture morale. Hamet et l'auteur de romans noirs en général pensent avec raison que ces considérations de l'auteur n'ont aucun intérêt dans son texte. Ça, c'est important aussi, et c'est ce qu'avait apporté Manchette, c'était que d'autres ont perdu juste après Manchette, c'est qu'ils vont pas... On peut parler de littérature engagée si vraiment vous voulez, mais en même temps, il n'y a pas de message explicite à l'intérieur. C'est pas des donneurs de leçons, c'est le choix des sujets qui peut permettre c'est le choix des sujets qui va faire qui va être leur engagement, mais ils n'ont pas de catéchisme à donner. C'est pas le cas de tous les auteurs, et là aussi je vais pas en citer, ça serait être mauvais camarade. Là où le roman policier avait ce schéma ordre, désordre, retour à l'ordre, le roman noir, lui, c'est désordre, désordre, désordre. Voilà, comme ça c'est clair. Dans un roman noir, il y a rarement de happy end, ou alors très partiel et très insatisfaisant. Je prends par exemple quelqu'un que je porte très haut, après je ne suis pas sûr que j'ai tout à fait d'accord, mais c'est James Ellroy, qui est un Américain, qui est pour moi l'archétype d'un très grand écrivain de romans noirs. Ses personnages sont tous une violence affichée, affirmée. Ce qu'il adore faire parler, c'est les flics corrompus, c'est les psychopathes, c'est nous forcer à les suivre dans les dédales de leur conscience, comme ça. Et c'est passer une espèce de pacte avec le lecteur où il leur dit, voilà, je vous parle d'un monde qui va mal, avec des gens qui vont mal. Il est très compliqué, voire impossible, de distinguer les bons des méchants, les flics des truands, les coupables des innocents, le bien du mal, à moins de se forger son propre code moral, ce qui renvoie à une liberté absolument terrible. Et de toute façon, en plus, soyons joyeux jusqu'au bout, la rédemption et l'apaisement sont impossibles, puisque tous les personnages d'Ellroy, ça ne va jamais à la fin, et en général, les personnages de romans noirs ne vont pas très bien. En introduisant le nom d'Ellroy comme génie moderne du roman noir, j'ai voulu aussi introduire une dimension qui est propre au roman noir moderne, qui ne se limite pas à cette critique sociologique, mais qui fait aussi de l'histoire, avec un grand H, un élément essentiel à la narration. Les romans d'Ellroy, ils se sont efforcés de reconstituer l'Amérique des années 50 à 70, de nous montrer que cette histoire est avant tout une histoire cachée, que les événements... Alors, c'est pas du complotisme, j'en discutais juste avant, etc., mais que c'est une histoire où on peut trouver d'autres explications ou placer le projecteur différemment. Donc, il raconte les assassinats de Martin Luther King, de Kennedy, de son frère, la guerre larvée contre Cuba, la guerre contre le Vietnam, la façon dont Hoover, cette créature abominable qui dirigeait le FBI, en fait était le vrai chef d'État des États-Unis pendant des décennies. Voilà. Et ça, c'est important pour moi parce que, en tant qu'écrivain et en tant que lecteur de romans noirs, c'est que on se retrouve avec de multiples interprétations possibles des événements que ni la sociologie, ni l'histoire, ni la philosophie, ni l'économie, ni la psychanalyse n'épuisent. C'est pour ça que je crois profondément dans le roman noir, c'est que le roman noir est tout ça à la fois plus quelque chose de plus et est une façon de connaître le monde. Et comme il n'y a que lui seul qui peut le faire de cette manière. Voilà. Rapidement, je voudrais quand même signaler que ça ne date pas d'hier sur cette appellation, parce que je vais terminer, mais c'est que je pense que, par exemple, il faut penser à quelqu'un comme Balzac, qui est un authentique auteur de romans noirs, au moins dans trois, et pas de romans policiers. Vous avez Une ténébreuse affaire, vous avez Splendeur et misère des courtisanes, vous avez Les Chouans, où on a déjà un duo de flics, Corentin et Perlevade, qui justement ne sont pas du tout des types au service de l'ordre, mais de l'ordre qui est là, à ce moment-là, qui se présente comme l'ordre, qui ne sont pas des bons ni des mauvais. J'accélère encore, c'est sur le fait qu'en France, donc arrivons en France maintenant, il n'y a pas très très longtemps, c'est l'apparition de ce qu'on appelait le néopolar. Et le néopolar est arrivé avec Manchette, dont tu parleras peut-être. Je renvoie quand même rapidement à un livre qui est paru aux éditions de La Fabrique. C'est deux Allemands qui l'ont fait, Elfried Müller et Alexander Roff, qui s'appelle le Polar français et qui montre justement les traces, enfin qui font un panorama du polar français, du néopolar français, justement en étant un peu des disciples de l'école de Francfort. Voilà. Alors, je voudrais quand même dire un mot très rapidement sur Manchette, parce que moi, je ne sais pas si je ne suis pas le seul, on sera certainement un certain nombre qui n'aurait pas eu envie, envie d'écrire, on l'aurait de toute façon, mais qui ont eu, c'est pas un maître non plus, mais c'est un écrivain qui justement est aujourd'hui considéré comme un grand écrivain tout court, alors que justement il est dans ses collections de poche, des gens comme Jean Echenoz reconnaissent son influence, et je pense que c'est pour l'introduction au néopolar avec un certain nombre de noms sur lesquels peut-être tu vas revenir, c'est Manchette qu'il faut lire. Voilà.
Mais surtout que Manchette, il récusait totalement cette appellation.
Oui, enfin, il l'a dit.
L'appellation néopolar, il disait que lui, il n'avait rien à voir avec le néopolar, que c'était un polar de gauchistes, que c'était les gauchistes, parce que Manchette, il appartenait à une. Il se revendiquait d'une.
d'une critique radicale du capitalisme. Il considérait que, et qui était dans la continuité des situationnistes, je ne sais pas si ça dit quelque chose à certains d'entre vous, mais en tout cas qui considérait que ce qu'on appelait les gauchistes dans les années 70, les trotskistes ou les maoïstes, c'était tous des léninistes, et que lui, il se situait dans une tradition tout à fait différente. Et c'est vrai que après 68, il y a eu toute une série de gauchistes qui, comme on ne pouvait plus faire la révolution, il fallait bien s'occuper, et qui ont trouvé une autre occupation en écrivant des polars. Et certains étaient excellents et d'autres moins bons. Et il y a eu toute une mode à une époque qui faisait qu'il suffisait qu'on soit contre la société dans le polar pour que le polar soit édité, quoi. Et le néo-polar, ça ressemblait un peu à ça par moment, mais il y a eu quelques grands noms, il y a eu beaucoup de gens. Il y a eu Fajardi, dont tu pourrais parler, puisque tu as écrit un livre sur lui. Il y a eu Thierry Jonquet, Gérard Deltay, je ne sais pas si on peut le coller au néo-polar, mais enfin, il y a eu surtout Jean-François Villard, qui était... lui qui était trotskiste, mais qui était quand même mal bien qu'il soit trotskiste, c'était un excellent auteur. Et Jean Vautrin, oui. Et Villard, nous cheminons entouré de fantômes au front troué.
Un
très grand livre, très poétique, qui mélange il y a le passé qui revient, le passé de Paris, qui mélange les rues de Paris avec les fantômes de ce qu'a été Paris, les fantômes des grandes révoltes ouvrières et les fantômes des surréalistes. C'est un très beau livre, c'est très dommage que Villard n'ait pas écrit davantage, qu'il a été rattrapé par le mal de vivre, parce que là c'est une chose que j'ai déjà dite à la librairie, mais à laquelle je tiens beaucoup. Je crois que c'est quelque chose qui unit beaucoup d'auteurs, en tout cas qui nous unit, par exemple, tous les deux, je crois, avec Jean-Patrick Manchette, c'est un certain goût pour la mélancolie, d'une certaine manière, c'est-à-dire la mélancolie qui est quand même au fond même de toute poésie, on peut dire, en tout cas d'une bonne partie de la poésie, puisque c'est le sentiment que la vraie vie n'est pas là, et que c'est comme disait quelqu'un.
La vraie vie est ailleurs.
La vraie vie est ailleurs, voilà. La vraie vie est ailleurs. Je sentais que ma citation était ratée. La vraie vie est ailleurs. Je pense que c'est la qualité de Manchette d'avoir réussi à faire passer ce sentiment. Plus que après, quand il faisait la théorie en s'appuyant sur Dashiell Hammett, etc. Bon, c'était des polémiques amicales qu'on avait. Bon, au bout d'un moment, il me disait puis c'était pas content. De toute façon, je te tire dessus. Donc, c'était. Mais il y a l'exemple de ce qui est pour moi un de ses chefs-d'œuvre, c'est le Petit Bleu de la Côte Ouest. Ça commence avec
le passage, si tu veux.
Le début et la fin du Petit Bleu.
J'ai le passage.
Tu veux le lire ?
Oui, je vais le lire parce que c'est l'exemple même du style Manchette et de à la fois de la mélancolie, ok, mais de l'ironie aussi. C'est un passage qui nous a tous marqué. Donc c'est les premières phrases du Petit Bleu de la Côte Ouest. Et il arrivait parfois ce qu'il arrive à présent. Georges Gerfaut est en train de rouler sur le boulevard périphérique extérieur. Il est entré porte d'Ivry. Il est 2h30, ou peut-être 3h15 du matin. Une section du périphérique intérieur est fermée pour nettoyage, et sur le reste du périphérique intérieur, la circulation est quasi nulle. Sur le périphérique extérieur, il y a peut-être 2 ou 3 ou au maximum 4 véhicules par kilomètre. Quelques-uns sont des camions, dont plusieurs sont extrêmement lents. Les autres véhicules sont des voitures particulières qui roulent toutes à grande vitesse, bien au-delà de la limite légale. Plusieurs conducteurs sont ivres. C'est le cas de Georges Gerfaut. Il a bu 5 verres de Bourbon Fort Roses. D'autre part, il a absorbé, voici environ 3 heures de temps, 2 comprimés d'un barbiturique puissant. L'ensemble n'a pas provoqué chez lui le sommeil, mais une euphorie tendue qui menace à chaque instant de se changer en colère ou bien en une espèce de mélancolie vaguement tchékovienne, et principalement amer, qui n'est pas un sentiment très valeureux ni intéressant. Georges Gerfaut roule à 145 km/h. La raison pour laquelle Georges file ainsi sur le périphérique avec des réflexes diminués en écoutant cette musique-là, il faut la chercher surtout dans la place de Georges dans les rapports de production. Le fait que Georges ait tué au moins deux hommes au cours de l'année n'entre pas en ligne de compte. Voilà.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que le bouquin commence comme ça, il finit pareil à la fin. Donc entre-temps, il a tué deux personnes et à la fin, il repart tourner. Bon, il a repris sa vie normale, mais de temps en temps, il part tourner sur le périphérique. Et ce qui est très beau, c'est qu'en même temps, cette image du périphérique est évidemment une métaphore de tout le livre, parce que c'est un roman où il revient à la niche, d'une certaine manière. Il est sorti faire un tour dans le vaste monde, et puis il finit par revenir à la niche. Voilà, j'ai l'impression que le polar italien, ce sera pour une autre fois, parce que je crois que, je ne sais pas à quelle heure normalement on doit lever le camp, mais si on veut laisser un peu de place pour le... Qu'est-ce que vous en pensez? On a combien de temps encore? Je peux dire... Je peux dire deux mots sur le polar italien ou... Oui ou non? Oui. Non, mais je ne sais pas, c'est parce que comme on sait que je ne veux pas... Non, ce qui est avant de dire deux mots sur le polar italien, juste une chose, je crois qu'il faut faire attention à pas faire non plus des catégories trop rigides, parce que c'est vrai qu'il y a un aspect qui est pas forcément directement l'aspect social. Tu as beaucoup insisté à raison sur l'aspect social, critique sociale qu'il peut y avoir dans le roman noir. Mais c'est vrai que le roman noir aussi, enfin, une des raisons du succès pour lesquelles on achète ces bouquins-là, c'est aussi la fascination pour la noirceur, la fascination pour le mal. Et quand on pense que dans les années 20, les pulps, le polar aux États-Unis, ça se vendait à 1 million d'exemplaires, toutes les revues qui paraissaient... Bon, que Fleuve Noir, dans la grande époque, vendait à 100 000, 200 000 exemplaires. Tous les bouquins étaient tirés à 100 000 exemplaires. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on a du mal à imaginer. Le premier tirage, c'était 100 000 exemplaires, balancer 100 000 exemplaires de bouquins. C'est-à-dire que c'est vrai que toute cette littérature-là a disparu au profit de... largement de la télévision ou des séries télé ou des choses comme ça. Et donc, sur le polar italien, moi, je vais juste dire très rapidement, je vais vous citer quelques noms. Tu as parlé de Elroy. Il y a quelqu'un qui est d'une certaine manière un peu le Elroy italien, parce que c'est Giancarlo De Cataldo qui est le roman le plus connu. On a gardé le titre italien, c'est Romanzo Criminale. C'est en fait un roman sur les coulisses du pouvoir sur les coulisses du pouvoir italien, les coulisses mafieuses, les coulisses corrompues, les complots fascistes et les alliances entre ces différentes forces. Les Italiens sont facilement complotistes, mais ils ont de quoi, parce que il y a vraiment effectivement beaucoup beaucoup de complots derrière l'histoire contemporaine italienne. Un autre nom que je ne peux pas ne pas citer, c'est Andrea Camilleri, que j'ai le plaisir de traduire aussi, et qui est un grand auteur sicilien qui fait partie de ceux qui ont fait que le genre a bougé. Parce que pour être très rapide, la première collection de polar historiquement, c'est Le Masque en 1927, mais deux ans après seulement, il y a eu une collection qui s'appelait les Gialli Mondadori, c'est-à-dire les jaunes, la collection jaune. Mondadori, c'est la maison d'édition, et Giallo, ça veut dire jaune, et les Gialli, c'est les bouquins jaunes, c'était en fait des petits livres qui ont trouvé en kiosque, et ça continue à être vendu en kiosque encore aujourd'hui. Et ces livres, au point qu'aujourd'hui, en italien, dans la langue courante, pour dire que c'est une affaire embrouillée, on dit c'est un giallo. Donc c'est devenu vraiment une locution banale. Et Et donc, c'est déjà les Mondador. Au début, il publiait pratiquement que des Américains, parce que la date vous dira sûrement quelque chose, 1929, on est très vite sous le fascisme, on était sous le fascisme, et donc il ne fallait pas que le coupable soit italien. C'était une des exigences. Et quand des Italiens écrivaient des gialli, ils étaient obligés d'écrire sous pseudonyme américain, et ça se passait dans une improbable ville américaine, et le tueur n'était jamais italien. Et les choses ont commencé à changer dans les années 70, assez en profondeur, avec quelqu'un comme Sherbanenko, qui était très loin d'être un gauchiste, c'était d'origine ukrainienne, plutôt très anti-bolchevique, et il a écrit beaucoup de romans roses, il a écrit beaucoup de littérature de genre, justement, beaucoup de littérature de guerre. Mais ensuite, il a commencé à écrire des polars qui avaient une grande qualité humaine, qui sont très touchants. Je vous recommande vraiment, c'est écrit S-C-E, on prononce en italien Sherbanenko, c'est-à-dire S-Serbanenko, il faut les prononcer à la française.
Les enfants du massacre.
Les enfants du massacre, par exemple, oui. Ça a été réédité récemment. Mais quand même, au contraire, si en France il y avait quand même un certain nombre d'auteurs, de romanciers français importants qui avaient une certaine admiration pour le polar, il y a Gide aussi, que tu n'as pas cité,
oui,
qui a entretenu une correspondance serrée avec Simenon, qui était très très admiratif de Simenon. En France, il y a quand même toujours eu une frange des intellectuels qui a accordé de l'importance. Et puis, bon, la série noire, ça a été créé par un compagnon de route des surréalistes, par Duhamel. C'est Queneau qui a trouvé la couverture.
Prévert a trouvé le titre.
Prévert a fait la maquette
et Queneau a trouvé le titre.
A trouvé le nom de la
collection.
De la collection. Donc, c'est une collection qui est quand même née sous des... avec des jolis faits sur son berceau, voilà. En revanche, en Italie, il y avait quand même un mépris assez profond, et moi-même, je l'ai vécu en Italie, parce que j'ai beaucoup vécu en Italie, et je me rendais compte, quand je disais aux gens, ils me demandaient « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?», je disais « je suis écrivain », alors je voyais que ça faisait... Je disais « écrivain de polar », et puis je voyais, boum, dans le regard des gens, tout d'un coup, je descendais quelques degrés dans l'échelle sociale. Mais c'est quelque chose qui a changé à partir des années 90, avec grâce à l'irruption de Andrea Camilleri, qui est devenu un best-seller total à chacun de ses bouquins, et aussi grâce au travail d'autres auteurs, les auteurs du groupe de Bologne. Il y a Laureano Machiavelli et Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli qui a fait aussi une série télévisée qui a eu beaucoup de succès. Bon, Camilleri, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est une espèce de... il a créé un personnage qui s'appelle le commissaire Montalbano, un feuilleton italien qui a un très grand succès en Italie, qui a été transposé en France, malheureusement, avec une langue extrêmement neutre, alors que l'intérêt de Camilleri, c'est quand même sa langue aussi. Donc c'est un auteur sicilien. À travers lui, on découvre toute la Sicile. Et la Sicile, c'est un peu une métaphore de l'Italie, avec tout le côté arrangement, combinaison, pouvoir occulte, etc. Et bon, il sait très bien parler de ça. Donc, Carlo Lucarelli aussi, par exemple, je recommande L'île de l'ange déchu, parce que là aussi, ce sont des auteurs qui utilisent beaucoup l'histoire, qui parlent beaucoup, qui ont beaucoup d'intrigues, qui se situent dans le passé et qui parlent du présent, en réalité aussi. L'île de l'ange déchu, il y a un enquêteur qui est... ça se passe sous le fascisme, c'est un enquêteur qui est plutôt compromis avec le pouvoir fasciste, mais qui n'accepte quand même pas qu'on travestisse des crimes. Voilà, bon, c'est
Il y aurait toute une série d'autres auteurs. Et Massimo Carlotto aussi, c'est un cas très intéressant. C'est un auteur, c'est un, quelqu'un qui a été obligé de s'enfuir parce qu'il était accusé d'un crime, qui a été extradé du Mexique en Italie. Et qui, dans le premier roman, était un roman qui était largement autobiographique. Il Fuggiasco, qui est traduit en français en fuite. Et. Il a deux séries, en fait. Il a une série où il y a un personnage qui est plutôt un personnage qui lui ressemble un peu, qui est un ancien détenu, qui est un enquêteur privé et qui essaye de faire régner, qui se bat pour le bien. Et il a une autre série où il y a un personnage qui est un salaud absolu. Et je dois dire que la deuxième série est beaucoup plus intéressante que la première. Ce qui est terrible, je ne sais pas si c'est sa faute ou si c'est la réalité qui est comme ça, mais on croit plus volontiers à son salaud qu'à son gentil. Voilà. Donc, voilà. Bon, je vous ai donné quelques indications très vite. Maintenant, ce serait bien de vous laisser 5 minutes pour. Si quelqu'un veut poser des questions.
Moi, je veux bien. On voit bien que dans le polar, dans le roman policier, il y a toujours le qui, comment. Et est-ce que la différence, c'est pas sur le pourquoi ? Non, mais c'est peut-être,
Enfin, moi, je crois que c'est vrai que ce qui distingue beaucoup, c'est que. Et, tu vois, par exemple, même Camilleri, qui pourtant. Camilleri, c'était le producteur d'une série d'adaptation du commissaire Maigret à la télévision italienne, qui est très réussie. Qui est vraiment très bonne, eh ben, dans ses romans, et Simenon, c'est un peu comme ça, c'est pour ça qu'on peut dire que Simenon, c'est aussi du roman noir, parce que le principal souci de Maigret, comme le principal souci de Montalbano, le commissaire de Camilleri, c'est pas d'envoyer les gens en prison, c'est pas de rétablir l'ordre, c'est de comprendre ce qui s'est passé, et de rétablir une forme de justice d'une manière ou d'une autre, s'il peut, voilà. Mais qui n'est pas forcément une forme de justice, qui n'est pas forcément la justice qui coïncide complètement avec la justice officielle. Voilà.
Il y a un Maigret, et encore plus dans ce que dit Serge à propos de Simenon, me semble très important, encore plus dans ce qu'on appelle les romans durs, c'est-à-dire les romans où il n'y a pas Maigret, mais ça c'est évidemment, c'est des romans noirs, même si certains ont trouvé une appellation intermédiaire qui serait le roman gris, ce qui n'est pas faux non plus, mais par exemple c'est Maigret, je pense, pour en avoir lu un bon paquet, qu'il doit y avoir deux enquêtes. Bon, d'abord, les trois quarts du temps, il n'y a aucune vraie procédure policière, c'est uniquement de l'immersion dans l'atmosphère. Et deux fois sur trois, il laisse échapper le coupable, ou il s'arrange pour que ça se détourne, ça se goupille bien. Enfin, il est très peu dans l'idée de la punition et du rétablissement de l'ordre, très très peu.
De Simenon. Est-ce qu'un polar ou un roman noir, ou les deux?
Non, mais je pense que. Alors après, bon, comme l'a dit Serge, là, ce qu'on a présenté, c'est histoire de faire des tableaux, des schémas, etc. Après, Dieu merci, la littérature se joue justement sans arrêt dans l'hybridation, le dépassement de ce qu'on a soi-même fixé comme règle. Enfin, voilà, il y a aussi cette dimension-là. Donc, c'est tout ça, Simon, en fait. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il est considéré par certains comme à mon avis avec raison, comme un des grands écrivains du XXe siècle. C'est que justement, c'est tout ça. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, c'est un roman policier, puisqu'il y a un policier, qu'en général, effectivement, il est quand même du côté d'un ordre qui est là et qui ne sera jamais remis globalement en question. Bon, mais à côté de ça, il est tellement dans une humanité, c'est un mot que j'aime pas, qui est très employé aujourd'hui, une empathie. Avec ses personnages, avec le coupable, que d'ailleurs c'est comme ça qu'il le trouve assez étrangement, que finalement c'est tout ça. C'est en fait Simenon a créé son propre genre. C'est peut-être aussi ça un grand écrivain.
Monsieur,
La série noire dirigée par Marcel Duhamel, qui a été dirigée pendant 33 ans à peu près. Le format de série noire, le volume avait un certain format. Et Marcel Duhamel limitait le nombre de pages à 254. Ce qui laisse sous-entendre que, en tant que directeur de collection, ça a paillardé sec.
Ah oui, non, oui. Oui.
Chez Raymond Chandler, chez LML, je pense également Heinz. Et je veux dire, ma question la suivante, c'est quel est le rapport actuellement de l'écrivain avec sa maison d'édition, c'est-à-dire son directeur de collection? Est-ce qu'il doit rentrer dans un créneau bien précis pour son roman, ou a-t-il toute l'attitude de pouvoir écrire? Et je terminerai en disant que Gallimard rend quand même hommage aux grands auteurs américains en sortant depuis un an une collection Quarto Gallimard, reprenant l'intégralité des romans américains
et retraduit
avec de nouvelles traductions, parce que la traduction aussi peut être sous-littéraire comme elle peut être sur-littéraire, dans le cas où on cherche le profit pour vendre beaucoup de livres. Donc je veux savoir quels sont les rapports actuellement entre l'écrivain et les maisons d'édition actuellement, s'il y a encore des coupes qui sont établies dans vos
œuvres. Juste sur cette histoire de la série noire et de Gallimard, en fait, il coupait de manière éhontée et c'est même parfois de manière. Ils arrangeaient la sauce comme demain. Et les traductions étaient. Comment dire? Ils ont créé une espèce de langue, de nouvelle langue, qui est le traduit de l'américain par Gallimard, parce que c'est vraiment pas une langue très, très proche de la. Souvent, ils essayaient de le mettre dans une langue d'argot, comme eux croyaient qu'était l'argot populaire des truands de l'époque, quoi. Donc, par exemple, Chandler était en fait beaucoup plus littéraire que ce qu'on le faisait apparaître dans les traductions de l'époque. Et dans la nouvelle traduction, on peut effectivement voir que c'était vraiment autre chose. Et moi, je faisais une discussion avec Manchette, où il disait que lui, en fait, il préférait le Manchette traduit à la sauce série noire, parce que il est tout le côté. C'est vrai que Chandler a un côté un peu littéraire, qui aime bien faire des effets de style, etc. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a une espèce de langue qui a été créée, qui a nourri beaucoup de gens. Par exemple, Philippe Djian, l'auteur qui ne se veut pas de la série noire, il écrit directement en traduit. On a l'impression par moment que c'est du traduit de l'américain. Mais du traduit de l'américain à la sauce série noire des années 70. Quoi. Sinon, les rapports avec les auteurs, je pense avec les éditeurs, il peut vous répondre la même chose que moi.
Oui, enfin à peu près, oui, parce que maintenant, justement, bon, ça avait déjà disparu dès les années 70-80. La série noire a commencé à accepter de faire même en poche 500 pages. Donc maintenant, il n'y a plus de coupe, il n'y a pas de cahier des charges en fonction de la collection dans laquelle on évolue, Dieu merci. Après, effectivement, le problème de la. C'est très bien que, par exemple, Quarto réédite, parce que dans ce qu'a signalé Serge, cette création de la langue, il y avait aussi, comme il fallait reprendre une langue soi-disant populaire, mais totalement fictive, etc. Lire dans les années 80, moi, quand j'ai découvert Hamet ou Chandler, justement, et que Marlowe dit saperlipopette, c'est juste plus possible. Voilà, donc c'est-à-dire que il fallait absolument, c'était d'urgence, ça devenait urgent, en fait, quand même. En même temps, je vous avais cité un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Chester Himes. Il ne faut pas être trop injuste avec la série noire de l'époque non plus, parce que la série noire de l'époque a édité, par exemple, Chester Himes, mais aussi David Goodis, alors qu'il n'était pas édité aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les romans de Chester Himes paraissaient d'abord en français. Marcel Duhamel donnait une... D'ailleurs, Chester Himes vivait à Paris, il paraissait d'abord en français, parce qu'il n'arrivait même pas à trouver d'éditeur aux États-Unis. Et c'était quasiment la même chose pour David Goodis, qui sont maintenant des noms reconnus même aux États-Unis. Mais donc, c'est pour ça qu'il faut... Bon, on peut dire qu'il y avait effectivement cette exigence commerciale, ce coupable, etc. Mais il y a toujours eu un souci de recherche et de découverte, quand même. Qui est peut-être dû, justement, à l'ADN Prévert Queneau, par exemple.
Si vous permettez, je vous pourrais monopoliser la parole. Mais oui. Concernant Chester Himes, justement, il y a des pages admirables concernant les rapports qu'il y a entre la classe ouvrière américaine, blanc et noir. Mm-hmm. Justement, il essaie, dans ses héros, de faire la fusion. fusion des
deux. C'est un très grand.
C'est un très grand.
Et c'est un très grand.
Ouais.
Et on peut comprendre pourquoi il n'a pas été édité
aux États-Unis. Voilà. Et il indique. Et c'est aussi un auteur qui est intéressant pour justement cet effacement de la distinction entre roman noir et roman tout court, ou, etc. C'est que, qui souvent d'ailleurs aux États-Unis. Ce fait, c'est que certains romans de Chester Himes sont parus dans la collection du monde entier, ils ne sont pas parus en série noire, c'est la collection du monde entier, c'est la collection officielle, si je puis dire, littérature blanche de, par exemple, je pense à L'aveugle au pistolet, ou, etc., qui n'était pas paru dans une collection policière, enfin, de romans noirs.
Non, mais sinon, dans les rapports avec les éditeurs, maintenant, les éditeurs font leur travail. C'est le travail aussi de l'éditeur de vous dire, dis donc, ce passage, c'est pas terrible, ou c'est un peu long. Après, on décide. Après, le dernier mot reste à l'auteur, évidemment. Mais c'est le boulot de l'éditeur aussi d'être un bon lecteur, évidemment.
Il n'y a plus de questions ?
Non.
Merci vivement.
C'était Le Polar, historique et panorama du genre, une conférence donnée par les écrivains Serge Quadrupani et Jérôme Leroy dans le cadre de l'Université populaire des Moutiers. Retrouvez cette conférence et bien d'autres sur notre site www.radiovassivière.com à la rubrique UPE.